Chers frères et sœurs, c'est une joie de nous retrouver pour cette messe de rentrée de l'enseignement catholique, qui est devenue maintenant traditionnelle, puisque ça fait plusieurs années maintenant que nous nous retrouvons pour cette messe, qui est une messe d'envoi en mission pour tous les chefs d'établissement, et où nous accompagnons, nous entourons très particulièrement les nouveaux chefs d'établissement, qui ont accepté cette mission redoutable, et qui vont recevoir à la fin de cette célébration, avant la bénédiction finale, leur lettre de mission, ou bien par la tutelle diocésaine, ou bien par la tutelle congréganiste de la salle Saint-Bernard des frères des écoles chrétiennes. Je salue donc le frère qui est venu jusqu'ici pour cette belle envoi en mission. Sans doute ce soir notre joie est un peu ternie par la décision qui a été prise ce matin par le rectorat à l'encontre de l'un d'entre vous. Et nous savons que c'est toute une communauté éducative, pas seulement un chef d'établissement et ses équipes, mais les familles qui font confiance, les élèves, les enseignants, les personnels au GEC, qui sont aujourd'hui impactés par cette décision. Vous savez bien que l'Église est un corps, que nous sommes tous les membres les uns des autres, comme nous dit saint Paul. Il ajoute même « Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. » Ce soir, nous nous réjouissons avec les nouveaux chefs d'établissement qui commencent une nouvelle mission dans un nouvel établissement. Et puis nous sommes évidemment dans la peine avec ceux qui sont impactés par cette décision. Et nous les assurons, bien sûr, ce soir, de notre amitié particulièrement et de notre prière. Je disais tout à l'heure que cette mission est redoutable. Redoutable parce que c'est une mission d'éducation, parce que c'est une mission de transmission, non seulement des savoirs, mais de la foi. Et dans le contexte d'aujourd'hui, ça n'est pas toujours facile quand les repères sont brouillés dans notre société, que de s'ancrer et s'enraciner dans les repères même de l'Évangile, qui est toujours actuel et qui est toujours le même, et les repères de l'anthropologie chrétienne qui trouve sa source précisément dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une belle mission, redoutable, parce que, comme vous le savez, dans un projet d'éducation intégrale, nous prenons la personne dans toutes ses dimensions, et en particulier dans ses dimensions spirituelles. Car la mission que vous la recevez d'abord de l'Église, et elle vous donne principalement, en outre de toutes les fonctions de management, de fédération des équipes, de pédagogie, de coordination des activités d'un établissement, une responsabilité pastorale que l'Église, dans le statut qui a été promulgué en 2013 ou 2014, je ne sais plus maintenant, qu'on n'appelle plus le nouveau statut au bout de plus de 10 ans, mais vous a confirmé. Responsabilité pastorale. Bien sûr que nous sommes tous appelés, en ce début d'année, à nous ressaisir, à nous approfondir, vous, les chefs d'établissement en particulier, avec vos équipes, ce document, ensemble, vers 2030, qui vient d'être publié, j'espère qu'il aura une large diffusion, qui est d'ailleurs le résultat de 3 années de travail collégial ou synodal, je ne sais plus quel mot il faut employer aujourd'hui. C'est vous qui, ensemble, avez défini 6 axes, puis des champs d'application pour chaque axe, et des pistes de travail, ou d'action plus exactement, pour chaque champ d'application. Il a été promulgué par le CODIEC, n'est-ce pas, ou approuvé par le CODIEC en son Assemblée générale au mois de juin dernier. C'est un beau travail qui exprime bien la vitalité et je dirais la cohésion aussi de notre enseignement catholique diocésain, qui rejoint d'ailleurs la chorale des chefs d'établissement que nous entendons ce soir et qui nous aide à prier. La force, bien entendu, la force des voix qui est à la hauteur, en effet, de ce qu'est notre enseignement catholique diocésain dans le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Le premier axe qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est l'école un lieu d'évangélisation enraciné et adapté, qui nous rappelle en début d'année et qui vous rappelle particulièrement à vous, nouveaux chefs d'établissement, que l'enseignement catholique participe à la mission essentielle de l'Église qui est d'annoncer l'Évangile. Car comme disait saint Paul VI dans son exhortation apostolique de Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation dans le monde moderne, déjà en 1975 et qui n'a pas pris une ride aujourd'hui, l'Église existe pour évangéliser. Le principe et la fin de votre mission, c'est en effet d'annoncer l'Évangile, l'évangélisation par l'enseignement, par l'éducation intégrale, dont vous êtes les acteurs principaux avec toutes vos équipes, avec tous ceux qui collaborent dans vos établissements, à votre charge. Annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, il en va sans doute de la liberté de chacun. Ça se fera sans prosélytisme indiscret qui risquerait de contraindre la liberté de conscience, en plus dans les limites du contrat d'association avec l'État, mais nous n'avons pas besoin de cela pour ne pas faire du prosélytisme qui pourrait contraindre la liberté. Mais que ce non-prosélytisme ne freine pas notre élan missionnaire, ne freine pas cette nécessité dans laquelle nous sommes d'annoncer l'Évangile en ce lieu particulier qu'est l'école, où les familles et les enfants et les jeunes qui vous font confiance, nous font confiance, savent que ce lieu est peut-être pour eux le seul, pour la plupart d'entre eux, où ils auront un contact avec l'Église que vous êtes, avec l'Évangile que vous êtes invité à proclamer, avec le Christ, qui est la pierre de fondation de notre vie, qui est la pierre de fondation de l'Église et de sa mission, à laquelle l'enseignement catholique est appelé à participer d'une manière toute particulière. Comme dit saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, tout baptisé, tout confirmé, tout adulte dans la foi, tout disciple missionnaire que vous êtes, particulièrement vous, les chefs d'établissement, doit être capable aussi de dire cela. Malheur à moi, si je n'annonçais pas l'Évangile, c'est le mandat missionnaire que Jésus a confié à son Église à travers ses apôtres au moment de l'ascension tel que cela est rapporté, par exemple, par l'Évangile selon saint Marc, à la fin de son Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, entendez, celui qui refusera de croire librement, pour autant que l'Évangile lui aura été vraiment annoncé, non seulement par le témoignage de vie, mais aussi par la parole de vie, sera condamné. C'est Jésus qui parle. Il en va de la liberté de chacun, mais il en va de notre devoir, notre exigence, notre mission redoutable d'annoncer l'Évangile. J'ai envie juste de vous rappeler les attitudes intérieures que dans son exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi, le pape Paul VI donnait à tous ceux qui sont des ouvriers de l'évangélisation. Et nous sommes tous dans l'Église, qui que nous soyons, quelle que soit notre place dans la société ou l'Église, quelle que soit notre responsabilité en vertu de notre baptême et de notre confirmation, des ouvriers de l'évangélisation. Je vous les lis, ces quelques attitudes, je les ai mises dans l'éditorial de la dernière édition du bulletin diocésain que vous avez tous et que vous lisez assidûment, c'est sûrement sur votre table de chevet. Première, nous mettre constamment sous le souffle de l'Esprit-Saint, sans lequel il n'y a pas d'évangélisation. Le protagoniste de l'évangélisation, c'est l'Esprit-Saint auquel nous sommes connectés par notre baptême et notre confirmation, mais que nous demandons sans cesse davantage par la prière, par la vie sacramentelle, par notre engagement dans l'Église, votre engagement communautaire dans l'enseignement catholique. Ensuite, être des témoins authentiques, c'est-à-dire cohérents avec ce qu'ils prêchent et ce qu'ils croient, qui prêchent vraiment avec conviction ce qu'ils croient et vivent. Vaste programme qui nécessite sans doute un chemin de progression et de croissance. Nous en sommes tous là. Moi, le premier qui vous parle. Ensuite, être des artisans d'unité. Et je cite le pape Paul VI là. En effet, si l'évangile que nous proclamons apparaît déchiré par des querelles doctrinales, des polarisations idéologiques ou des condamnations réciproques entre chrétiens, comment ceux à qui s'adresse notre prédication ne s'en trouverait-il pas scandalisé? Être des serviteurs de la vérité, ajoute-t-il, qu'ils ne trahissent jamais ni ne dissimulent par souci de plaire aux hommes, d'étonner ou de choquer, ni par originalité ou désir d'apparaître. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, de manière claire dans cet Évangile des Béatitudes que nous entendons en ce mercredi de la 23e semaine du temps ordinaire. Vous voyez, nous n'avons pas choisi des textes particuliers. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Et il ajoute, quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Si nous sommes pécheurs et qu'on dit du mal de nous, comme disent les enfants, c'est bien fait. Mais si c'est à cause du témoignage de la vérité, de l'Évangile, alors réjouissons-nous et tressaillons de joie, car c'est ainsi que l'Évangile semé portera du fruit. Témoin de la vérité, mais être animé par l'amour. Et le pape Paul VI donne trois qualités à cet amour. Le respect de chacun, qui qu'il soit. Le souci de ne pas blesser l'autre, en tout cas de ne pas faire exprès. Le respect vis-à-vis de l'autre. Faisant l'effort de transmettre, dit-il, non pas des doutes ou des incertitudes, mais des certitudes solides que nous donne la foi. Enfin, évangéliser avec la ferveur des saints, en sachant se soustraire aux alibis qui peuvent nous détourner de l'évangélisation, je cite toujours Paul VI, pour lesquels on prétend trouver appui dans tel ou tel enseignement du Concile. Ce texte a 50 ans. Il est la ligne directrice de tout l'élan missionnaire qui traverse l'Église depuis 50 ans. Et encore aujourd'hui, avec le pape François, dans son exhortation apostolique programme, la joie de l'Évangile, qui se réfère directement à ce texte de Paul VI, l'évangélisation dans le monde moderne. Accueillons ces attitudes intérieures, demandons à l'Esprit-Saint de les inscrire profondément dans notre cœur, afin d'être peu à peu à la hauteur de notre mission d'évangélisation par l'éducation et par l'enseignement. La première lecture, sans doute, qui nous parle du célibat, ne nous concerne pas immédiatement. Mais ce qui est important ici, c'est le détachement auquel le Seigneur nous appelle, nous chrétiens, dans le monde d'aujourd'hui, en nous disant que le temps est limité, car il passe, ce monde, tel que nous le voyons, afin que si nous sommes pauvres, comme il le dit, heureux les pauvres, ce soit parce que nous voulons être riches du royaume des cieux, tendus vers le royaume des cieux, tendus vers cette mission d'être les témoins de ce royaume dans le monde d'aujourd'hui, en particulier dans la responsabilité qui nous a été confiée dans l'Église. Amen.